Silence et gâteau de miel, la sagesse du désert. Bonjour et bienvenue. Nous sommes le samedi 27 février, 11e jour de carême. Et comme la semaine passée, nous aurons demain un jour de pause, avant de reprendre notre parcours, lundi. Aujourd'hui, nous continuerons à réfléchir sur notre rapport aux autres et à nous-mêmes. Nous entrons dans la méditation avec un extrait du psaume 119. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voies s'affermir à observer tes commandements. D'un cœur droit, je pourrais te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe. Ne m'abandonne pas entièrement. Amen. Et nous entendons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, les versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Louange à toi, ô Christ. Rowan Williams, Silence et gâteau de miel, chapitre 2, Silence et gâteau de miel, deuxième partie. Une fois de plus, il nous faut être attentifs au risque de moderniser la tradition du désert d'une manière superficielle. Cela peut nous paraître merveilleux quand on nous dit que la voie de l'ascèse est centrée sur la découverte de soi. Parce que, pour la plupart d'entre nous, nous sommes profondément enamourés de l'idée d'exprimer qui nous sommes et découvrir notre vraie identité afin de mieux l'exprimer, c'est le fardeau dont se chargent des centaines de livres de développement personnel. Mais pour les moines et les moniales du désert, la quête de cette vérité peut être effrayante. Et ils savent bien combien de stratégies nous sommes capables d'inventer pour éviter de nous confronter à la réalité. Comme nous l'avons déjà vu, ils sont familiers de l'idée qui voudrait que, pour nous découvrir nous-mêmes, tout ce dont nous aurions vraiment besoin serait simplement que les autres s'en aillent, ou au moins qu'ils se plient sagement à jouer le rôle que nous leur avons écrit, et qu'ils n'aillent pas essayer d'interférer avec nos projets. Le caractère essentiellement communautaire de la vie monastique est fondamental, comme nous l'avons vu, pour soumettre cette idée à la thérapie nécessaire. Notre vie dépend de notre prochain. Et si nous étions privés de tous les autres, nous n'aurions en fait pas la moindre idée de qui nous sommes vraiment. Le fait que nous devons aussi nous détacher du jugement des autres est tout aussi important. Mais nous y reviendrons au prochain chapitre. Comme c'est souvent le cas, Il peut être éclairant de prendre un exemple qui n'a apparemment aucun rapport. L'écrivaine américaine Annie Dillard, l'une des auteures qui s'intéresse au monde naturel et à l'expérience humaine les plus passionnants et les plus novateurs de ces dernières décennies, a écrit un livre bref intitulé La vie d'écrivain, qui est un récit franc et drôle sur le processus de l'écriture créative. Elle fait preuve d'une grande honnêteté au sujet des mille et une manières par lesquelles on cherche à éviter ce travail rébarbatif qui consiste à se mettre à écrire au moment où on a prévu du temps pour cela. Elle parle aussi de la tendance qu'a un ouvrage en cours à s'en aller, pour ainsi dire, pendant la nuit, si bien que nous ne savons plus comment nous y remettre. En fait, nous avons peur de continuer parce que nous savons bien, si nous essayons réellement de bien écrire, qu'il est terriblement difficile de parvenir à une expression de soi honnête. Il faut pour cela un examen de soi minutieux et une capacité au détachement. Cette partie qu'il nous faut abandonner, écrit-elle, n'est pas seulement la mieux écrite. C'est aussi, étrangement, celle dont nous pensions qu'elle touchait enfin à l'essentiel. Fin de citation. Ce que nous pensions important, c'est-à-dire le passage dont nous croyons qu'il était le plus fidèle à notre moi réel, se révèle finalement vide et malhonnête. Il faut continuer à questionner et à chercher. Ce n'est pas étonnant que nous finissions par détester ce travail et que nous nous trouvions toutes les excuses du monde pour ne pas le faire. On retrouve là comme un écho du poète T.S. Eliot, qui écrit « Tu croyais être venu pour cela et ce n'est qu'une coquille vide, l'enveloppe du sens. » Ou encore de la statue archaïque de Rilke, dans le poème du même nom, qui nous dit qu'il n'y a nulle part où nous cacher et qu'il nous faut changer de vie. Nos idées superficielles doivent céder la place, et avec elles s'en va aussi la croyance que nous pouvons produire quelque chose simplement par un acte de notre volonté. Je me souviens d'un sculpteur d'un certain renom expliquant à un groupe d'étudiants, d'ailleurs plutôt choqués par ce qu'il disait, que la volonté ne joue aucun rôle dans le processus créatif. La volonté nous sert simplement à continuer de travailler, mais ce n'est pas elle qui nous conduit à l'œuvre finale, tout simplement parce que nous ne savons pas ce que nous voulons vraiment. Il y a une sentence de Jean le Nain qui dit quelque chose de cela d'une manière tout à fait frappante. Nous avons déposé le fardeau léger, qui est l'auto-accusation, et nous nous sommes chargés du fardeau lourd, qui est l'auto-justification. Cela paraît complètement contre-intuitif, mais c'est parfaitement en accord avec ce que la tradition du désert dit du moi en général. L'auto-justification est le fardeau lourd, parce qu'on n'a jamais fini de le porter. Il arrivera toujours telle ou telle situation nouvelle dans laquelle nous éprouverons le besoin d'affirmer notre position, de creuser une tranchée à défendre pour notre ego. Mais comment peut-on bien dire que l'auto-accusation est un fardeau léger? Il faut nous souvenir ici du principe fondamental qui est celui de nous débarrasser de la peur. L'auto-accusation, l'honnêteté envers nos échecs, c'est un fardeau léger parce que quelle que soit la réalité à laquelle nous devons faire face en nous-mêmes, et pour aussi douloureux que ce soit à nous avouer, pour aussi difficile que ce soit parfois, de tout recommencer au début. Nous savons que ce fardeau est déjà connu et assumé par la miséricorde de Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous créer nous-mêmes, de nous maintenir nous-mêmes, ni de nous sauver nous-mêmes. Dieu l'a fait, continue à le faire et le fera. Nous n'avons rien d'autre à faire que de nous tenir là. Comme Moïse le dit au peuple d'Israël, sur les rives de la mer Rouge. Nous prions. Seigneur, que savons-nous de ton accueil tant que nous ne déchargeons pas sur toi nos fardeaux, tant que nous ne te confions pas nos infirmités, à toi qui es venu les porter. S'il est vrai que tu nous prends tels que nous sommes, s'il est vrai que tu reçois avec tendresse tous les paysages de nos vies, leurs crevasses et leurs sommets, leurs volcans et leurs déserts, s'il est vrai que tu nous ouvres les bras, quels que soient nos sentiments d'échec ou de lassitude, alors, Seigneur, tu nous délivres de nous-mêmes. Là où nous sommes le plus vulnérables, là s'enracine une force venue de toi pour recevoir notre prochain tel qu'il est, lui offrir de l'ombre, la possibilité de faire halte, de se remettre des fatigues du voyage. Seigneur, apprends-nous l'accueil du fond de l'âme, l'accueil d'autrui en cette profondeur de l'intercession qui se passe de grandes démonstrations. L'accueil d'autrui en ce lieu saint de la prière que tu creuses au fond de nous quand nous invoquons ton esprit. Amen.